Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
La mort d'Alexia Daval, étranglée par son mari, fait la une du Parisien aujourd'hui en France.
Oui, la mort d'Alexia Daval illustre un décalage entre la manière dont les grands journaux racontent ce drame et ce que ressent et exprime une partie de l'opinion publique. Est-ce qu'on est en train de parler d'un fait divers ou d'un nouvel épisode de la mort des femmes? Et pour nos journaux, c'est le fait divers qui compte. L'histoire splendide qui tétanise ou qui passionne, avec ce mari Jonathan qui pleurait la femme qu'il avait étranglée, et la Dépêche se souvient de Patrick Henry qui, en 1976, se désolait devant les caméras de la disparition de l'enfant qu'il avait tué. Il y a une mémoire du fait divers, il y a une esthétique du fait divers, l'empathie que l'on accorde au meurtrier en fait partie. Il y a toujours le suspense, le mari finit par avouer, c'est dans Le Parisien qui raconte magnifiquement l'affaire. On rend hommage aux enquêteurs, le coup de maître des gendarmes, dit l'Est républicain, qui lui aussi superbement raconte l'affaire. Tout cela est très bien fait et souvent bien écrit, mais en même temps, il manque dans nos journaux un mot, féminicide, et une compréhension politique ou sociologique que l'on refuse au lecteur, tant Alexia Daval est une parmi les dizaines de femmes tuées chaque année par leur conjoint. 140 selon le site de l'Obs, 127 selon la journaliste Tissu Lecoq qui a remis à jour une liste macabre, celle des victimes de féminicides conjugaux. Elle la tient sur le site de Libération, mais justement sur le site seulement. Les journaux papier, ce que l'on va acheter en kiosque, en province comme à Paris, ne parlent pas de cet aspect des choses. On lit curieusement le mot féminicide dans l'Est républicain, mais tout seul comme un remords, sans article ni statistique pour le soutenir. Et du coup, le débat qui ne se tient pas dans la presse papier se transfère sur les réseaux sociaux, singulièrement sur Twitter, où des dizaines, des centaines de personnes s'insurgent contre la manière dont l'histoire a été racontée, contre ces phrases qui ont fait d'Alexia Daval une femme qui dominait son mari. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, proteste, comme l'ancienne ministre socialiste Laurence Rossignol. Elle dit, Laurence Rossignol, dans les affaires de violences faites aux femmes, il y a toujours un moment où la victime devient la cause du crime qu'elle a subi. Faits divers dans la presse papier, débat sur Twitter contre les médias. Voilà, Nicolas, le décalage culturel, politique, médiatique, générationnel. C'est sur le web que vous allez trouver, sur le site de Libération, une enquête glaçante publiée en juin dernier. 220 femmes tuées par leur mari, ignorées de la société, entre 2014 et 2016. Sur le web encore, le site de l'Obs, que vous trouverez deux articles. Le premier est en colère. Ce n'est pas un meurtre de joggeuse, mais un féminicide. Et le journal rappelle qu'à l'automne, quand on pensait encore qu'Alexia Daval avait été tuée en faisant son jogging, les journaux tissaient des généralités sur le danger pour les femmes de courir seules dans la campagne. Le second article sur le site de l'Obs résume la mécanique des meurtres de femmes. Elle le quitte, il la tue, scénario typique du féminicide. Et cela raconte la possession et des hommes ordinaires qui diront devant le tribunal qu'ils ont pété un câble au moment où il perdait le contrôle. Ce débat sera peut-être demain dans nos kiosques, tant la presse a ses rythmes, mais la société comprend plus vite.
Et on parle, Claude, d'une autre violence ce matin dans l'Express.
La violence qui gangrène un lycée de Toulouse au passé douloureux et au nom prestigieux. Il a été construit sur les ruines de deux établissements soufflés dans l'explosion de l'usine AZF. Il s'appelle Gallieni, comme le défenseur de Paris en 1914. Mais cet établissement, nous dit l'Express, est pris en otage par une minorité d'élèves. Pas des élèves difficiles, mais des délinquants, en garde à vue ou pourchassés par la BAC le week-end, mais envoyés chez nous en semaine. C'est ce que dit Mathieu Perrion, qui est professeur de génie mécanique et syndicaliste FSU, le syndicat de gauche. Mais qui dit aussi, Mathieu Perrion, à Gallieni, la République a mis un genou en terre. Il y a urgence, si on ne fait rien, on va compter les morts. Et ce n'est pas tant la grandiloquence des mots que l'on doit retenir que la détermination de ces professeurs qui posent à la une de l'Express. Ils se sont d'abord racontés dans la Dépêche. On a des élèves qui sortent de prison, qui viennent en cours avec le bracelet électronique. On lisait ça dans le journal du Midi au début de ce mois. Maintenant, c'est dans l'Express, la litanie de l'abandon et du ghetto social. On est passé de la Dépêche, grand quotidien régional, au grand hebdomadaire généraliste. Et c'est aussi une interrogation sur la presse et ce qu'elle peut faire pour que l'on entende tout en haut ce qui fait souffrir dans la société.
Et enfin, Claude, une polémique sur une sculpture géante.
Et ce débat parle de ce que nous voulons être et comment nous voulons vivre endeuillée ou consolée. Il s'agit d'un bouquet de tulipes géantes qu'une main non moins géante nous offrirait, des tulipes de métal et de plastique de 11,70 m de haut que l'artiste américain Jeff Koons veut offrir à Paris pour nous témoigner de sa solidarité face au terrorisme. Et ce cadeau fut annoncé en novembre 2016 par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et l'ambassadrice des États-Unis en France. Ce cadeau, aujourd'hui, déchire le monde de l'art qui polémique et pétitionne contre ce symbole de la marchandisation de la culture qui pourrait nous avilir. On lit ça dans Libération, sous la plume d'homme de gauche, l'éditeur Éric Cazan, le philosophe Jean-Luc Nancy. Il vous Koons aux gémonies, il lui demande de déposer son objet décoratif monumental et kitsch, son signe mou et vautré, au pied de la Trump Tower, où il sera dans le goût de la maison. La Trump Tower, c'est à New York. C'est beau, la colère. Dans Le Monde, l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, lui, propose une autre forme de beauté, la modération. Il défend Jeff Koons, Ayagon, un artiste qui a sa place dans le paysage culturel de notre époque, mais il préférait voir ses tulipes posées ailleurs que dans l'espace vide devant le palais de Tokyo, où elles sont prévues, ces tulipes. Il pourrait y rompre l'équilibre et la pureté. Il serait dommage que l'installation d'une œuvre d'art dans l'espace public parisien, surtout si elle se propose de saluer la mémoire de ceux qui ont péri par la fureur du fanatisme, donne lieu à des déchaînements inutiles de passions excessives, dit le modéré Ayagon. A-t-il raison ? Il n'est pas, Nicolas, excessif de décider en colère de ce que nous voulons faire de nos malheurs.
Claude Askolovitch, merci pour cette revue de presse.